Je disais donc un réveil qui nous touche tout particulièrement, non seulement parce que c'est celui de Genève, mais parce que nos églises, ici celle de Merin, est directement en lien, issue de ce réveil, avec le petit passage Pellistri, Collevrey-Merin. Voilà, donc une histoire qui est proche de nous et dont on a encore bien des choses à tirer. Alors merci encore à Philippe de Corvet d'être avec nous ce soir. Vous êtes toujours aussi nombreux, c'est un plaisir que de vous voir aussi nombreux. Merci de votre présence. Merci pour celles et ceux qui nous rejoignent aussi, qui ne sont pas d'église, mais qui nous rejoignent à cette occasion. Bienvenue aussi à vous tous. Voilà, je voudrais encore simplement prier, puis après je laisse tout de suite la parole à Philippe. Seigneur, notre Dieu, nous te louons, te bénissons, toi qui es le souverain de l'histoire. Tu es Seigneur, Seigneur de nos vies, Seigneur du monde et Seigneur de l'histoire aussi. Et nous voyons au travers de cette histoire et particulièrement au travers de l'histoire de l'Église combien tu agis dans le monde des hommes, combien tu es celui qui met en œuvre ton plan et qui va fidèlement le mener à son terme. Et nous voyons au travers de ces réveils combien tu es celui qui conduit ton Église. Là où s'était installée une misère spirituelle, tu as suscité des hommes et des femmes, des cœurs renouvelés, régénérés, qui ont apporté l'Évangile de manière nouvelle, qui ont apporté l'Évangile avec consécration. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir apprendre à connaître cette histoire, afin qu'elle puisse nous toucher, que nous puissions être tout à coup renouvelés dans notre foi, dans notre confiance en toi, pour nos vies, pour nos églises, ici sur Genève. Nous te remettons Philippe de Corvet, te remercions de sa présence. Merci de le renouveler aussi dans ses forces et nous nous réjouissons de l'entendre. Merci de ta bénédiction sur chacun d'entre nous ici. Que cette soirée soit une soirée riche. Te prions dans le nom de Jésus. Amen. À toi Philippe, merci encore.
En effet, comme on vous l'a dit, le réveil de Genève est particulièrement important à Genève. Il faut dire qu'au début du XIXe siècle, l'église de Genève était assez éloignée de l'église du temps de Calvin. Bien sûr, le monde avait changé. Le XVIIIe siècle avait été le grand siècle des philosophes qui avaient eu une grande influence à Genève avec les encyclopédistes, avec Voltaire, qui s'était installé à Genève, aux Délices, qui avait dû fuir, mais qui était à Ferney, pas bien loin. Rousseau, qui était citoyen de Genève, comme il aimait à dire. Et l'Église avait adopté, au fond, la philosophie des Lumières. Et elle a voulu adapter la religion à l'époque. C'est une tentation permanente, d'ailleurs, de l'Église. On avait abandonné les grands dogmes de la Réforme, mais encore une fois, dans un souci de rejoindre le peuple, de rejoindre le langage et la philosophie de l'époque. Félix Neff, on en reparlera, un des grands hommes du réveil, parle de cette époque, de cette attitude et de cette prédication comme d'une mondanité sanctifiée. Et l'humanisme et le déisme ont remplacé la révélation. C'est un christianisme raisonnable qu'on prêche. On exhorte les gens à être vertueux, mais les grands mystères de la foi, on ne sait plus très bien ce que c'est. Jésus est plus un modèle qu'un sauveur. Bien qu'on se soit opposé au philosophe, Voltaire a dû quitter les Délices, il a été chassé de Genève, mais il s'est installé pas bien loin et son influence est restée. Rousseau aussi est attaqué, mais malgré tout, leur philosophie marque profondément l'Église. La raison remplace la révélation et la vertu remplace la foi. Quant à l'expiation, le sens de la mort de Jésus sur la croix, on ne sait tout simplement plus ce que c'est. Voici comment se termine le petit catéchisme de Genève de l'époque dans sa section La Rédemption. Question. On a juste gardé de Calvin la manière par question et réponse, mais le reste est assez différent. Question. Que devons-nous donc en conséquence à Jésus-Christ? Réponse. Nous lui devons beaucoup de respect, de soumission et d'amour. Et voici le plan d'un sermon sur la préparation de la mort. Je cite. Premièrement, il faut se faire une juste idée de la mort et de ses suites. Deuxièmement, il faut se détacher jusqu'à un certain point de la vie. Troisièmement, mettre de l'ordre à l'état de sa conscience. Quatrièmement, bien vivre chaque jour. Cinquièmement, tenir ses affaires en ordre et faire son testament en bonne santé. Sixièmement, éviter la mollesse. Comme le dit un historien du réveil, c'est de très bonnes choses, mais c'est très certainement autre chose que l'apôtre Paul voulait dire quand il disait « Pour moi, vivre, c'est Christ, et la mort m'est un gain. » Et voici comment Jean-Jacques Rousseau, lui-même, attaque les pasteurs de Genève dans ses lettres, les lettres écrites de la montagne, vous savez qu'il a écrit depuis le Val de Travers. Voici, je cite Jean-Jacques Rousseau. « Oh, je ne vois, ce sont de singulières gens que messieurs vos ministres. On ne sait ce qu'ils croient ou ce qu'ils ne croient pas. On ne sait même pas ce qu'ils font semblant de croire. Leur seule manière d'établir leur foi est d'attaquer celle des autres. » Ça, c'est de Jean-Jacques Rousseau. Quant à la faculté de théologie, voici ce que Ami Bost, l'un des protagonistes du Réveil, dira de ses premières années d'études en 1809, donc à la faculté ici à Genève. Je cite. Pendant les 4 ans que nous passions à étudier la théologie, et sauf l'usage qu'on était obligé de faire de l'Ancien Testament pour apprendre un peu d'hébreu, on n'ouvrait pas la Bible dans nos auditoires. Ce livre y était inutile et inconnu. En d'autres termes, il n'entrait pas dans les cours, et sauf son usage comme thème de langue, on pouvait ne pas le posséder. Quant au Nouveau Testament, comme plusieurs savaient le grec, et que les autres étaient censés le savoir, ce livre ne paraissait ni comme thème de langue, ni autrement. Aucun cours non plus, ni bon ni mauvais, de dogmatique chrétienne. C'était le déisme pur. Voilà l'état de l'Église au début du XIXe siècle. Voyez, dans un sens, c'est encourageant, parce qu'on se lamente sur l'état de l'Église aujourd'hui. Mais c'était bien pire alors, et le réveil est venu. Hein? Donc il peut venir encore. Hein? Certes, il y avait quand même à Genève de la vie et de la piété. Le comte de Zinzendorf, le fondateur ou le ressusciteur des Moraves, avait séjourné à Genève assez longtemps, en 1741. Et il avait fondé une assemblée morave qui avait groupé jusqu'à 600 personnes. Et c'est la fréquentation de cette assemblée qui, au début du XIXe siècle, elle était beaucoup moins nombreuse, mais quand même elle existait toujours, et c'est la fréquentation de cette assemblée qui a permis à certains jeunes de garder, à certains jeunes étudiants, notamment étudiants en théologie, de garder la vie et la foi. Mais la compagnie des pasteurs, qu'on appelait toujours vénérable, réagit contre ces étudiants, et publia un règlement stipulant que tout étudiant en théologie qui, contre la volonté de la compagnie, continuerait à fréquenter des assemblées particulières, donc les assemblées moraves, ne pourrait être admis à la consécration pastorale. sur ces entrefaites, arrive à Genève, vers 1815-1816, un Écossais, ancien officier de marine, donc un laïc, hein, qui se consacrait à l'évangélisation. C'était un officier à la retraite, un officier de marine, qui s'appelait Robert Haldane. C'est lui qui va faire entrer les étudiants dans le réveil. Vous voyez, il y a toujours eu l'influence anglo-saxonne. Hein. Haldane réunit chez lui quelques étudiants en théologie avec lesquels il lit et il commente et il explique l'Épître aux Romains. Et il est stupéfait, hein, de leur ignorance. Voici ce que dit Frédéric Monod, qui était un des étudiants de l'époque. Frédéric Monod, qui était le frère aîné d'Adolphe Monod, le grand prédicateur du réveil, dont vous avez le portrait sur un des panneaux à la sortie. Et voici ce que dit Frédéric Monod, qui était d'ailleurs, qui savait très bien l'anglais, qui traduisait Haldane. Je cite. Ce qui m'étonna et me fit réfléchir plus que toute autre chose, ce fut sa connaissance pratique de l'écriture, sa foi implicite à la divine autorité de cette parole dont nos professeurs étaient presque aussi ignorants que nous. Nous n'avions jamais rien vu de semblable. Il ne perdait jamais son temps à argumenter contre nos prétendus raisonnements. Il montrait immédiatement la Bible avec son doigt, ajoutant ces simples paroles. « Regarde ici, comment lis-tu ? Cela est écrit ici avec le doigt de Dieu. » Il nous expliquait l'Épître aux Romains que plusieurs d'entre nous n'avaient probablement jamais lu et qu'aucun ne connaissait. C'était tous des étudiants en théologie, hein. En suivant régulièrement cet épître, il eut l'occasion de nous mettre sous les yeux un corps complet de théologie et de morale chrétienne. Cet enseignement atteignit la conscience et le cœur de plusieurs de ses auditeurs qui, comme moi, font remonter à ce vénérable et fidèle serviteur de Dieu leur première connaissance de la voie du salut et de l'évangile de vérité. Le nom de Robert Haldane est inséparablement lié à l'aurore du réveil de l'évangile en Suisse et en France. Là, c'est Frédéric Monod, qui a été pasteur à Paris et qui a été le fondateur des Églises libres de France. Ses cours, ces explications des Romains par Haldane vont bouleverser ses étudiants. Ils vont y découvrir rien de moins que l'évangile de la grâce, que l'évangile du salut, que l'autorité de l'écriture. Et Haldane, en bon écossais, était un calviniste. Hein. L'Écosse est le pays de John Knox, hein, le grand disciple de Calvin. Ils vont donc redécouvrir Calvin par Haldane, et surtout l'autorité de la Bible, hein, et le message de la rédemption. Outre ces étudiants, il y avait avec eux deux jeunes pasteurs déjà consacrés qui joueront un rôle très important dans la suite, César Malan, on en reparlera, et Louis Gossen, ou Gossan, qui vont porter ce message dans les temples de la ville puisqu'ils étaient déjà pasteurs consacrés. Et c'est une prédication de César Malan le 15 mars 1817, qui va mettre le feu aux poudres et qui sera le début du réveil. Comme 1517 est le début de la réforme, hein, 1817 est le début du réveil à Genève. Ce n'était pas une prédication polémique, mais une explication claire et éloquente du salut de Jésus-Christ. En voici un extrait que je vous lis. C'est César Malan lui-même qui parle. « Je prêchais, dit César Malan donc, dans un grand temple, le temple de la Madeleine, hein, qui est aujourd'hui qui est l'église suisse allemande. Hein. Je prêchais dans le temple de la Madeleine, qui était cependant trop petit pour l'auditoire qui s'y pressait. C'était vers le soir, et l'obscurité du lieu ajoutait à la solennité de l'appel que, pour la première fois, j'adressais à la conscience des incrédules et des pharisiens. On m'écouta d'abord dans le plus profond silence, mais ce calme était celui de la surprise et du déplaisir. Des signes de mécontentement se montrèrent ici et là à mesure que je manifestais la fausseté de la justice de l'homme et que j'exaltais celle de Dieu par la seule foi en Jésus. On en vint jusqu'à murmurer, on s'agitait. Et lorsque, montrant de la main la muraille qui était à la droite de la chaire, j'ai dit avec fermeté, « Si, dans ce moment, la main mystérieuse qui jadis à Babylone, au milieu de la licence d'un festin impie, écrivait en silence sur la muraille l'arrêt de mort d'un roi vicieux, si cette main s'avançait et qu'elle traça sur cette paroi l'histoire de votre vie, depuis que vous avez juré de la rendre pure, si ces lignes véridiques révélaient ici ce que vous avez fait et pensé, loin des regards des hommes et dans le secret de votre cœur, dites, quel est celui de vous qui osa même y porter les yeux? Cette supposition seule ne vous fait-elle pas frémir? En ce moment-là, plusieurs des auditeurs regardèrent comme à la dérobée vers la muraille. D'autres levèrent les épaules. L'impatience éclata tout à fait lorsque, quelques moments après, m'adressant au pécheur qui prétendait mériter le salut par ses vertus, je m'écriais « Cherche donc encore, pécheur qui t'éloigne de Christ. Cherche autour de toi, cherche en toi-même, fouille et refouille tout ton être. Qui trouves-tu? Dis, qu'as-tu qui puisse être offert à Dieu ?» À ces appels répondit un mouvement de dépit dans l'assemblée. Quand le prédicateur descendit de la chaire, il traversa la foule de ses concitoyens comme un soldat qui est passé par les baguettes ou comme un malfaiteur portant une torche d'infamie. Cette exposition assez éloquente, hein, est claire de l'évangile de la grâce, détourne de Malan ses propres parents. Sa femme elle-même est profondément choquée et attristée. Leur riant avenir, parce que César Malan était un homme extrêmement doué, il était aussi professeur au collège, hein, le brillant avenir lui parut faire naufrage. Malan rentra chez lui, couvert de mépris, accablé. Mais sur le seuil de sa porte, il rencontra Robert Haldane, qui lui dit, en lui serrant la main avec infiniment de bienveillance, « Béni soit Dieu, l'Évangile est de nouveau prêché à Genève. » Mais l'opposition ne tarda pas à se manifester, et violemment. Le lendemain même, le pasteur Chenevière, délégué de la Compagnie des pasteurs, vint pour prier le jeune ministre, et je cite, de changer de doctrine, vu le danger qu'il y avait à prêcher que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires à l'acquisition du salut. On est dans la Genève réformée, hein. César Malan répondit que telle était sa foi. Dès lors, la chaire lui fut refusée par les pasteurs de la ville et par la plupart des pasteurs de campagne. La Compagnie des pasteurs publie alors un règlement qui interdit de prêcher sur les points controversés. Elle voulait amener la paix. Interdiction de prêcher sur des sujets comme le péché originel, comme la manière dont la grâce opère sur l'union des deux natures du Christ. Encore une fois, cela se voulait un règlement de paix, mais c'est ressenti par les partisans du réveil, ces jeunes étudiants, comme une déclaration de guerre au réveil. Car interdire de prêcher sur le péché originel, c'est en fait interdire de pécher sur la grâce. Car qu'est-ce que la grâce ? Sinon Dieu qui vient nous visiter dans notre nature pécheresse. Le péché originel, c'est que nous sommes naturellement pécheurs et la grâce vient. Et interdire de prêcher sur les deux natures du Christ, c'est en fait refuser de proclamer la divinité de Jésus-Christ. C'est voir en Jésus simplement un modèle et non un sauveur. Car comment Jésus pourrait-il pardonner les péchés s'il n'est qu'un homme? Donc ce règlement, qui se veut soi-disant un règlement de paix, est en fait l'interdiction de proclamer les grandes vérités du salut. Dieu vient dans notre état de péché et de perdition nous apporter le salut. C'est interdire de prêcher ce que Calvin avait toujours dit, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, incapables par nous-mêmes de faire le bien, et que nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes cinq commandements, ce qui fait que nous attirons sur nous par ton juste jugement la condamnation et la mort. C'est ça le péché originel. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé, nous recourons à ta grâce, et c'est une interdiction de ça. À la croix, Jésus expie nos péchés et nous pouvons enfin être pardonnés. Ce règlement, c'est donc la continuation de la morale contre la grâce, contre l'expiation. Aussi, la plupart de ces jeunes étudiants et des jeunes pasteurs, comme César Malan, comme Louis Gossen, refusent de signer. D'ailleurs, contraindre les gens à faire non seulement ce qu'ils et à dire non seulement ce qu'ils croient et ce qu'ils considèrent comme essentiel, c'est les inciter à se séparer et c'est ce qui va arriver. D'ailleurs, César Malan interdit de prêcher, destitué du corps pastoral, il était encore régent au collège, mais il va être destitué aussi de son poste de régent au collège. Et c'est pourquoi ces jeunes pasteurs vont être amenés à constituer les bases d'une église indépendante, l'église du Bourg de Four, qui deviendra par la suite l'église libre de Genève, qui existe toujours. Mais cette église fut en proie à quantité d'oppositions et même de persécutions. Le premier pasteur auquel ils firent appel, c'était encore que des étudiants, s'appelait Méjanel, c'était un Français. Il fut très vite expulsé du canton, en tant qu'étranger. Les réunions, qui se faisaient quand même au Bourg de Four, furent interrompues à plusieurs reprises à cause des émeutes provoquées par la population, notamment en juillet 1818. Quand un nouveau local fut inauguré, une troupe assemblée troubla le culte. Et parmi les clameurs, on pouvait entendre « À bas les Moraves, à la lanterne, à mort, à bas Jésus-Christ !» Il fallut prendre des mesures énergiques pour protéger l'Église. Et le gouvernement envoya plusieurs compagnies de la garde soldée qui sont donc mobilisées. Parmi elles se trouvera un certain Félix Neff, qui était sergent d'artillerie, farouche adversaire du réveil. Il disait, si j'en vois un, je lui plante mon épée dans le cœur. Mais qui, quelque temps après, se convertira et dira à César Malan, « Je vous avais méconnu, je suis des vôtres. » Et qui devint un évangéliste extraordinaire, on en reparlera à la fin. César Malan, encore lui, dont la prédication avait mis le feu aux poudres et qui était déjà consacré, refuse le règlement de la compagnie aussi, mais il refuse également de se séparer de l'Église nationale. Il considère que sa prédication est dans la droite ligne de la Réforme, Et il dit, c'est la compagnie qui a dévié, c'est pas moi. Moi, je prêche ce que Calvin a toujours prêché. C'est la compagnie qui est hérétique. Et quand il est destitué de son emploi de pasteur d'abord, puis ensuite de professeur, il ne veut pas fonder une nouvelle église à côté de la grande, et il construit dans son jardin une chapelle, pour lui, qui est l'expression de l'église en exil. Si vous allez aujourd'hui aux eaux vives, près de l'église Saint-Joseph, vous avez une rue qui existe toujours, qui s'appelle la rue de la Chapelle. Il n'y a pas de chapelle. C'est en pleine ville, aux eaux vives, mais ça s'appelle la rue de la Chapelle parce que c'est là que César Malan avait construit sa chapelle. Et il se considère comme un ministre de l'église de Genève en exil, et c'est lui qui représente la légitimité de l'église. Il se fera d'ailleurs consacrer avec l'église d'Écosse. Il y aura alors deux centres de réveil. L'église du Bourg-de-Four, avec les jeunes étudiants, et la chapelle du témoignage avec César Malan. Ces deux églises, toutes deux prêchant le réveil, ne seront pas toujours en harmonie parfaite. Ça arrive aussi. Celle de César Malan est d'un calvinisme strict. César Malan est vraiment, pour la prédestination, c'est le calvinisme pur et dur. Les fidèles du Bourg-de-Four l'accusent d'être trop dogmatique et d'attacher trop d'importance à la souveraineté de Dieu et à la prédestination. Celle du Bourg-de-Four insiste peut-être davantage sur l'expérience et par conséquent sur l'émotion et la décision humaine. Et on retrouve un peu les mêmes différences qu'on a vues la dernière fois entre Wesley et Whitfield. Si vous voulez, César Malan, c'est Whitfield, le Bourg-de-Four avec Félix Neff, c'est Wesley. Et je crois que c'est important aussi de comprendre cela. Le réveil n'est pas forcément un âge d'or, n'est pas forcément une église sans problème. Non seulement il y a l'opposition, la persécution, mais même entre les gens du réveil, l'unité n'est pas forcément totale. César Malan accuse Félix Neff et ses amis de prêcher un christianisme trop expérimental, d'avoir une doctrine floue et de trop insister sur la volonté de l'homme. Et par conséquent, le danger, comme Whitfield et Wesley, de faire de la conversion une œuvre, d'ignorer la souveraineté de Dieu et d'être dans l'hérésie. Félix Neff, le saint Félix Neff, on en reparlera, le bienheureux Félix Neff, comme on disait. Voici ce qu'il répond. Vous verrez que c'était assez corsé. La principale, je cite Félix Neff, la principale cause de tout ce mal est ce fameux Malan, qui est de plus en plus exclusif et tout à l'heure un vrai pape, condamnant au feu tous les livres religieux dont il n'est pas l'auteur, accusant d'hérésie tous les prédicateurs qui ne prennent pas journellement le mot d'ordre chez lui, travaillant à former de ses sectateurs autant d'agents de sa haute police et de son saint office. J'aimerais mieux en vérité prêcher parmi les Turcs que parmi de tels chrétiens. Mais ce qu'il y a de beau, comme avec Wesley et Whitfield, vous rappelez que c'est Wesley qui avait fait le service funèbre commémoratif de Whitfield. C'est César Malan qui sera un de ceux qui accompagnera Félix Neff dans ses derniers moments et à son enterrement. Donc, encore une fois, ne rêvons pas d'un réveil sans problème. C'est pas un nirvana sans histoire. Mais je pense que pour nous aujourd'hui aussi, entre les évangéliques classiques et les charismatiques, entre les baptistes et les pédobaptistes, entre Toronto et pas Toronto, que sais-je, Il y a aussi des choses, mais ça a toujours été dans le réveil, mais que ça ne nous trouble pas et que ça ne nous divise pas. C'est vrai qu'ils se sont lancés des noms d'oiseaux, Nef et Malan, mais ils étaient quand même des frères, la preuve, hein, c'est qu'ils se sont retrouvés. Et Félix Neff, on en reparlera, qui est venu mourir à Genève, épuisé qu'il était par son ministère, dans ses derniers mois, hein, César Malan était un de ceux qu'il a accompagné, qu'il a aimé, qui a prié avec lui, et qui, pour finir, a prêché lors de son enterrement. Quelles étaient les caractéristiques du réveil? On pourrait citer encore d'autres choses, mais vous avez toute l'histoire hein, sur les panneaux, hein. Alors lisez-les. J'aimerais dire, font cinq caractéristiques du réveil de Genève et quelque part de tout réveil. Ils n'ont pas voulu autre chose que de retrouver les grandes doctrines de la réforme. Mais la première chose que je dirais, c'est l'importance de l'appel à la repentance, à la foi, à la conversion. On l'a vu dans le message de César Malan, on pourrait le dire dans un sermon d'Adolphe Monod. Adolphe Monod, c'est bien sûr la grande famille des Monod, hein. Aujourd'hui encore, hein, c'est une grande famille protestante, hein, et Adolphe Monod est un des premiers de cette famille-là. C'était un très grand prédicateur, hein. J'en dirai peut-être quelques mots si on a le temps à la fin, et quand il prêchait à Paris, il y avait des foules qui venaient l'écouter. Même l'historien, le grand historien Michelet parle de lui dans son Histoire de France. Voici ce qu'il dit dans un sermon qu'il a prêché 2 ans avant sa mort, et qui, sur Trop tard, c'est le titre du sermon, Trop tard, où Dieu fidèle en ses menaces. Périr, parce qu'il parle de périr et se convertir, hein, c'est d'où sa prédication, ça, où on périt, où on se convertit. Périr selon les Écritures, c'est-à-dire selon Dieu, c'est demeurer sous la malédiction de Dieu. C'est aller au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. C'est être livré au feu qui ne s'éteint pas et au ver qui ne meurt pas. Se convertir, vous le savez, assez. Ce n'est pas la lumière qui vous manque. La conversion est un changement intérieur et profond qui a pour auteur l'Esprit de Dieu, pour principe la foi en Jésus-Christ et lui crucifié, pour fruit une vie nouvelle et par lequel on devient en deux mots un vrai croyant et un vrai saint. C'est à vous, c'est à toi qui ne te juge pas converti que je m'adresse. Aujourd'hui, pour vous demander une fois bien sérieusement ce que vous faites de la menace de mon texte, vous entendez Jésus-Christ vous disant « Si vous ne vous convertissez, vous périrez ». Vous n'êtes pas converti, selon vous. Vous êtes exposé à mourir tous les jours. Et pourtant, vous vivez tranquille. Mais comment cela? À cette question, il n'y a qu'une réponse possible. Vous ne prenez pas la menace de Jésus-Christ au sérieux. Et il continue, et il termine. Je trouve que c'est une conclusion assez originale et assez forte. « Combien y en aura-t-il dans cette assemblée qui profiteront de ce discours ?»« Je ne sais. Dieu le sait. Qu'il y en ait au moins un et que ce soit vous. Amen. » Voilà, c'est... Il n'y a pas de plus grand... Adolphe Monod est le plus grand prédicateur que la France, le monde français. Il était français, mais il était d'origine suisse. Hein, même Monod, c'est un nom vaudois, de Vuran. Mais il a passé toute sa carrière en France. Hein, et voilà la prédication de la conversion. On a souvent reproché au réveil cette insistance sur l'appel à la conversion. On l'a taxé de culpabilisatrice. Hein. Et c'est un reproche qu'on entend souvent et encore aujourd'hui. Hein, mais quand Adolphe Monod dit « Mais si vous ne convertissez pas, vous allez mourir, hein, etc. » Mais c'est l'inverse qui est vrai. Cet appel est libérateur. Car qu'est-ce qu'il signifie? L'homme, quel qu'il soit, peut changer. L'homme le plus bas tombé, le criminel le plus endurci, l'épave de la société la plus repoussante, peut recevoir par la repentance et la foi une vie nouvelle. C'est ça la conversion. C'est une bonne nouvelle. Il y a de l'espérance. Qui que nous soyons, nous pouvons toujours repartir à zéro, comme dit un chant qu'on chante aujourd'hui. D'où d'ailleurs un dynamisme formidable. On le voit, le réveil, celui qu'on appelle le réveil de Genève, aura un dynamisme formidable dans tous les domaines, on en reparlera. Et voit aussi un changement. Pensons aussi à l'armée du salut. Vous avez tout un panneau sur l'armée du salut. C'est aussi un fruit du réveil, pas forcément celui de Genève, mais celui du méthodisme, bien sûr. Qu'est-ce qui a motivé William Booth, pasteur méthodiste anglais, à fonder l'armée du salut? Il est bouleversé par la misère ouvrière en Angleterre, et il publie en 1890 un livre qui a bouleversé l'Angleterre, « Les ténèbres de l'Angleterre et les moyens d'en sortir ». C'est le titre du livre de William Booth. C'est l'époque de la révolution industrielle. Karl Marx, également en Angleterre, scandalisé par la misère, avait publié Le Capital. Mais William Booth, dans son livre, propose une autre solution que Karl Marx. C'est par le changement des cœurs, par la conversion, qu'on peut changer la société. Le moyen de sortir des ténèbres, c'est justement la conversion des cœurs. C'est à la fois son combat social et ses appels à la conversion, qu'on a aussi tellement reproché à l'armée du salut. Et puisqu'on est à Genève, et d'ailleurs c'est aussi dans un des panneaux que vous avez là dans le hall, quand la fille de William Booth arrive à Genève en 1882, elle a 23 ans. On l'appellera la maréchale. Et on organise pour elle, elle organise des réunions au théâtre de la Cour Saint-Pierre. Mais on trouve ça scandaleux qu'une femme parle. Alors elle est expulsée. Elle va à Neuchâtel, où elle est arrêtée, où elle est mise en prison. Il y aura des émeutes, il y aura des morts. Elle revient à Genève pour son procès, parce qu'on lui fait un procès d'avoir osé parler en public. Et au juge qui lui reproche, elle, jeune femme, de s'exposer en public, elle répond, elle a 23 ans. Je cite, « Si j'étais venue à Genève pour jouer la comédie dans un de vos théâtres, dans une tenue moins habillée que mon uniforme salutiste, vous auriez trouvé cela normal. Vous seriez peut-être venu même m'applaudir. Et vous trouvez scandaleux que je vienne dire que Jésus peut changer des vies, peut transformer des ivrognes en personnes sobres ? Voilà ce qu'elle a osé dire. D'ailleurs, elle a été acquittée. D'ailleurs, parce que l'ambassade d'Angleterre à Berne a fait des pieds et des mains. Les journaux à Londres en avaient parlé. La fille de William Booth enfermée à Genève, etc. Oui, une formidable puissance libératrice. Le réveil, la prédication de la conversion va changer des vies. Les rabbins disent, ne pas croire qu'un homme peut changer, c'est un blasphème. Mais c'est ça la conversion. Tout homme, quel qu'il soit, peut changer, pas par ses propres forces, mais par la puissance de la grâce de Dieu. C'est ça le réveil. C'est ça la prédication de la conversion. Un appel à la repentance et à la foi. C'est pas du légalisme, c'est pas de la culpabilisation, car c'est pas par nos forces, bien sûr, qu'on y arrive, mais c'est par la grâce de Dieu. Une deuxième caractéristique du réveil, ou plutôt un résultat, mais c'est pareil, c'est le foisonnement d'œuvres sociales et caritatives et missionnaire. On a souvent reproché au réveil et aux piétistes et aux évangéliques de s'occuper que de l'âme, etc. Hein, vous avez d'ailleurs un panneau là aussi sur les œuvres sociales issues du réveil. Le réveil va prêcher tout l'évangile à tout l'homme. Il y aura en Suisse et en France, parce que le réveil de Genève va très vite se répandre en France, beaucoup de ces pasteurs, comme les deux frères Monod, Frédéric et Adolphe, vont être pasteurs en France, hein, et il y aura là tout un foisonnement d'œuvres caritatives et sociales de toutes sortes. Sait-on par exemple que la première organisation des bains de mer fut créée en 1846 à Sète pour les familles pauvres? Ça existe toujours, le lazaret de Sète, hein. C'est dans la suite du réveil, hein. Il n'y avait pas de congé payé à ce moment-là, hein. Ça ne vient qu'en 1936, 90 ans après, hein. Et c'était une idée géniale, hein, et d'ailleurs prophétique de proposer, d'offrir à des familles pauvres des bains de mer. À une époque où on se baignait guère, hein. Sait-on aussi que c'est à la société biblique qu'on doit la fondation de prévoyance et de secours mutuel, en 1825. Sait-on que la première école normale de France fut créée dans une écurie à 1800 mètres d'altitude, à Dormihouse, par Félix Neff, on en reparlera, un pur produit du réveil de Genève. Sait-on également qu'en 1844, Daniel Legrand, grand industriel alsacien, mais originaire de Bâle, mais surtout grand chrétien, qui avait aidé Jean-Frédéric Oberlin, un des ancêtres du réveil, envoie au ministre des Affaires étrangères un projet de loi internationale pour limiter la durée du travail dans les usines. C'est le même Daniel Legrand, qui était également membre de la Société biblique, qui obtint en 1841 une loi restreignant le travail des enfants. Parce que les enfants travaillaient depuis tout petit, et c'est lui qui, le premier, hein, a écrit et a obtenu, hein, une limitation du travail des enfants. Sait-on que les premières colonies de vacances ont été créées dans la mouvance du réveil en 1832 par Madame Élise de Pressensé. Et que dire de la colonie agricole des jeunes détenus de Sainte-Foy en 1842, la Société luthérienne des Amis des Pauvres, l'Institution des Sourds-Muets à Saint-Hippolyte-du-Fort, le premier établissement de ce genre à abandonner le langage par signes et à faire des pensionnaires des parlants. Hein? Donc, ça, c'est que quelques œuvres, mais il y a eu quantité d'œuvres, hein, parce que transformés par la puissance du Christ, les hommes du réveil ont voulu, hein, répandre, hein, tout l'évangile à tout l'homme. Parmi toutes ces œuvres caritatives et sociales, il en est deux, hein, qui ont eu un grand impact aujourd'hui encore. D'abord, les asiles John Boss. Vous avez aussi un panneau là, dans le hall. À La Force. La Force est un village, hein, entre Bordeaux et Bergerac. Il était le fils d'Ami Boss, celui qui a écrit qu'on n'ouvrait pas la Bible, hein, quand on a la théologie. Et depuis tout petit, John Boss, un de ses fils, est préoccupé par la misère humaine. Ami Bost a eu une très grande influence, notamment parce qu'il a été un propagandiste du réveil infatigable, et aussi parce qu'il a eu 11 enfants. Il a eu 10 fils et une fille. Et puis il disait toujours, j'ai 10 garçons, chacun de mes garçons a une sœur, combien j'ai d'enfants. Et il est nommé pasteur, John Boss donc est nommé pasteur à La Force entre 1848 et 1881, et il y fonde 9 asiles pour accueillir les infirmes, les épileptiques, les handicapés mentaux, les aveugles, les orphelins, les vieillards sans ressources. Il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque, hein. Il n'y avait rien, personne ne s'occupait de ces gens. Et son mot d'ordre était, il l'a souvent dit, ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître. Hein? Et il créera tout cela sans aucun subside de l'État. Et il va créer une œuvre qui existe toujours d'ailleurs. Hein? Et ses procédés curatifs sont très inventifs et très modernes. Il commence l'ergothérapie, il commence la musicothérapie. Hein? Il a été le grand pionnier des soins pour handicapés. L'autre grande œuvre du réveil qui existe toujours aujourd'hui, que vous connaissez tous, c'est bien sûr les diaconesses. Hein? Partie d'Allemagne, là aussi dans la mouvance du réveil, les diaconesses vont se constituer en France et en Suisse, à Reuilly, à Paris, donc en 1841, à Saint-Loup en 1842, à Strasbourg en 1842 aussi. On a de la peine à imaginer aujourd'hui la misère des hôpitaux au début du XIXe siècle. Dans le canton de Vaud, par exemple, il y avait un seul hôpital, l'hôpital cantonal à Lausanne, où il y avait plusieurs parties. Une partie était hôpital, une autre partie était la prison, et une autre partie était l'asile des fous. Et dans certains hôpitaux, hein, on mettait les malades trois par lit. Et quand c'était pas cinq, et celui qui avait la fièvre, on le mettait au milieu pour qu'il réchauffe les deux autres. Et comme il était certainement contagieux, c'était la meilleure manière pour que tout le monde soit malade. Hein. Et il n'y avait pas de transport, imaginez. Alors c'est pour ça que Henri Germont, bouleversé par ça, aussi un fruit du réveil, s'est dit, mais dans les districts, hein, avec des sœurs hein, qui consacrent leur vie dans un esprit de charité, de sainteté, et d'unité pour le service de Dieu et du prochain. Et les diaconesses seront très nombreuses. En 1940, il y avait, je vous le donne en mille, hein, dans le monde entier, essentiellement en Allemagne, surtout en Allemagne, mais en Suisse, en Angleterre, le nombre des diaconesses était 70 000. 70 000 diaconesses. Hein. Encore une fois, on a souvent accusé le réveil de se désintéresser du corps, de ne s'intéresser qu'à l'âme. Hein. Parfois, ça a été vrai, mais c'est souvent une calomnie. Il y a, au contraire, c'est un moteur de développement. Hein. Mais bien sûr, avec toujours une visée spirituelle. Et il y a aussi un panneau, je pense que vous le savez, mais s'étend dans le monde que la Croix-Rouge a été fondé par un homme du réveil. Henri Dunant a été secrétaire de la société de l'Alliance évangélique de Genève, hein, que tout a été fondé à l'oratoire et que le comité avec qu'il a fondé, qui était autour de lui, était pour la plupart des hommes du réveil. Et puis que dire de l'œuvre missionnaire, hein? Le plus célèbre missionnaire français, hein, François Coillard, celui que la presse britannique appelait le Livingstone français, the French Livingstone, hein, avait été catéchumène d'Ami Bost, justement, quand il était pasteur à Bourges. Et c'est grâce à lui et à sa fille Marie, justement la fille unique de cet homme qui avait 10 fils, hein, qu'il s'est converti. Une troisième caractéristique du réveil, et non des moindres, il fera chanter. On peut dire que le réveil a inventé le cantique. On chantait bien avant, hein. Il y avait les cantiques de Bénédicte Pictet à Genève. Mais s'ils étaient rares, on chantait guère que les psaumes. Le réveil va inventer le cantique, hein, parle aussi de l'expérience chrétienne. Certains seront sur des mélodies anglaises qui seront traduites, hein, ou des mélodies moraves, qu'on chante encore aujourd'hui, par exemple, « Rien au Jésus que ta grâce, rien que ton sang précieux », c'est une mélodie morave. Mais d'autres seront des cantiques de chez nous. Le plus célèbre auteur et compositeur, c'est justement César Malan. Nos psautiers en connaissent encore. Par exemple, le chant « Hosanna, béni soit ce sauveur débonnaire ». C'est un chant de César Malan. Et chose encore plus nouvelle, qui n'existait pas avant le réveil, avant César Malan, c'était des cantiques pour enfants. Qui n'a pas chanté? Je pense que tous ceux qui ont un certain âge parmi nous peuvent chanter « Je suis petit, mais que m'importe hein ?» C'est un chant de César Malan. Hein, du bon berger, je suis l'agneau, etc. Ou bien, mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. Ou bien, mon cœur joyeux, plein d'espérance. C'est tous des chants pour enfants de César Malan. Hein, des générations d'écoles du dimanche hein, ont chanté cela. Là encore, on a beaucoup accusé le réveil. À cause de ces chants, parce que c'était des mélodies sentimentales ou des mélodies anglo-saxonnes, c'était pas de la bonne musique. Hein. Voici ce que dit pourtant l'écrivain français Hippolyte Taine dans son Histoire de la littérature anglaise à propos des cantiques anglo-saxons. Je trouve ça très intéressant. Je cite. Rien de plus grave et de plus simple que ce chant populaire. Nulle fioriture, nulle cantilène. Il n'est point fait pour l'agrément de l'oreille, et néanmoins il est exempt de la tristesse maladive, de la lugubre monotonie, ni monacale, ni païen. Il coule comme une mélopée virile et pourtant douce, sans contredire ni faire oublier les paroles qui l'accompagnent. Tout est d'accord. Le lieu, le chant, le texte, pour mettre chaque homme en personne et sans intermédiaire en présence de Dieu. Pourtant, ce n'était pas un auteur chrétien, Taine, hein, mais je crois qu'il a bien compris ce chant anglais. Et les chants du réveil ont été, bien sûr, influencés par les chants anglais, surtout anglais, on parlait moins de l'Amérique à ce moment-là. Mais il y a eu aussi une éclosion presque. Tous les hommes du réveil ont composé des chants. Le fameux chant d'Adolphe Monod, « Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, etc. » Ou le Lutheroth, le banquier de Paris, « C'est un rempart que notre Dieu hein, », c'est lui qui a traduit en vers français le choral de Luther. Ou Ami Bost, hein, qui a composé quantité de chants aussi. C'est celui qui a composé le plus de chants après César Malan. « Ô Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouïr. Hein. » Ou Empeta, pasteur à Genève, hein, « Grand Dieu, nous te bénissons. » Tout le monde connaît ça. C'est un chant du réveil. Ou Félix Neff, hein, « Ne te désole pas si on sèche tes larmes. » Félix Neff, lui, je peux pas ne pas parler de ça, il reculait devant rien. Il était dans un pays tellement pauvre, hein, dans les Hautes-Alpes, on en reparlera, le pays était tellement pauvre que les gens ne connaissaient rien, tellement sauvage. Il ne chantait pas. Il y a un seul chant que les gens chantaient, parce qu'il l'avait appris au régiment, c'était la Marseillaise. Alors il a composé un chant. C'est Golgotha, c'est le calvaire, c'est le jardin des oliviers, qui sont mes maisons de prière, et mes rendez-vous journaliers, et mes rendez-vous journaliers. Entendez-vous? Non, entendez-vous. Dans ce jardin, que vois-je en terre? Le fils du grand Dieu prosterné, accablé et triste, consterné, c'est pour moi qu'il est en prière. Grand sacrificateur, priant pour le pécheur, Jésus, Jésus, ah, souviens-toi d'intercéder pour moi. On pourrait demander à Sarkozy de changer les paroles. Mais là aussi, je crois qu'il y a un enseignement pour aujourd'hui. Le réveil a été influencé, c'est vrai, notamment dans les chants, par la piété anglo-saxonne, mais très vite, beaucoup de chants ont été composés par des gens d'ici, paroles et mélodies. Et je crois qu'aujourd'hui encore, c'est moins l'Angleterre, c'est plus l'Amérique, hein, Mais je crois qu'aussi, il ne faut pas avoir peur de cette influence, mais il faut aussi qu'elle, hein, qu'elle s'enracine dans le sol de chez nous et dans les mélodies de chez nous. Une autre caractéristique du réveil, c'est la promotion de la femme. Il y a deux panneaux dans l'exposition qui en parlent. Hein. Les femmes joueront un grand rôle hein, dans le réveil. La baronne de Stahl, qui est la belle-fille de Madame de Stahl, et la duchesse de Broglie, qui est la fille de Madame de Stahl. Madame de Stahl, l'écrivain, avait deux enfants, tous les deux sont convertis profondément et sont devenus des ardents protagonistes du réveil à Paris. Et la comtesse Pelet de la Lozère, dont le mari était ministre de l'Intérieur du roi Louis-Philippe, hein, on disait d'elle qu'elle était aussi grande dame dans les salons des ministères que sœur de charité dans les demeures des pauvres. Madame Élise de Pressensé, qui a organisé la première colonie de vacances en 1832. Et puis bien sûr Valérie de Gasparin, qui était de Genève, hein, et qui fonda la première école d'infirmières laïques et chrétiennes, La Source, à Lausanne, qui existe toujours, hein, qui a été fondée par Madame de Gasparin, dont le mari a été un des fondateurs de l'Église libre. Hein. Et elle écrira beaucoup. Vous avez aussi, sur un des panneaux, c'est intéressant, un fac-similé d'une lettre de Pierre Loti, l'écrivain, qui répond à Madame de Gasparin, qui lui avait écrit, parce que Pierre Loti était protestant, hein, pour l'inviter à se convertir. Et Pierre Loti répond de manière très gentille, mais il n'entre pas dans la pensée de Madame de Gasparin. On a dit que le protestantisme avait été facteur de la promotion de la femme, c'est vrai, mais ça l'est surtout du réveil. Et avec la promotion de la femme, la promotion des laïcs aussi, comme on l'a vu d'ailleurs la dernière fois avec le réveil méthodiste. L'Église va enfin sortir de ses temples et de ses hiérarchies. C'est ce qui d'ailleurs ne va pas plaire à tout le monde et que certaines hiérarchies vont s'y opposer. Mais le réveil, et c'est le cinquième point que je voulais aborder avec vous, je ne sais pas si on aura le temps d'aller beaucoup plus loin, et c'est pour moi quelque chose d'admirable, a su atteindre à la fois les plus humbles et les plus riches, les plus pauvres et la très haute société, comme je dis, la femme du ministre de l'Intérieur, hein, la duchesse de Broglie, hein, et même l'autre là, la belle-fille du roi Louis-Philippe, malheureusement le fils est mort assez tôt, mais sa belle-fille, hein, qui était la duchesse d'Orléans, était donc une femme qui participait à toutes les réunions du réveil. Et s'il y a quelque chose dont on a terriblement besoin aujourd'hui, c'est d'atteindre ces deux extrémités de la société, hein, les plus pauvres et les plus riches. Hein. Nos églises sont très classe moyenne. Hein. Quand j'étais étudiant, lors d'une de mes prédications d'examen, ici à Genève, le professeur Widmer a dit « Oui, vous savez, parce que dans notre église remplie de fonctionnaires postaux et d'employés de banque, c'est la classe moyenne. Mais comment atteindre les top people et les plus pauvres hein? Eh bien, le réveil a su les atteindre. Si on relit Félix Neff, justement, hein, quand il va dans les Hautes-Alpes, voici ce qu'il raconte. Il fait des visites dans ces hameaux, dans ces villages, Dormillouse à 1800 mètres, Saint-Véran, la plus haute commune habitée d'Europe à 2000 mètres. Beaucoup de maisons sont sans cheminée et presque sans fenêtres. Toute la famille, pendant les 7 mois de l'hiver, croupit dans le fumier de l'étable qu'on ne nettoie qu'une fois par an. Leurs vêtements, leurs aliments sont aussi grossiers et aussi malpropres que le logement. le pain qu'on ne cuit qu'une fois par année est de seigle pur, grossièrement moulu et non tamisé. Si ce pain dur vient à manquer sur la fin de l'été, on cuit des gâteaux sous la cendre comme les orientaux. Si quelqu'un tombe malade, on n'appelle point de médecin. On ne sait lui faire ni bouillon ni tisane. Je leur ai vu donner à un malade dans l'ardeur de la fièvre du vin et de l'eau de vie. Heureux si le malade peut obtenir une cruche d'eau près de son grabat. Les femmes y sont traitées avec dureté comme chez les peuples encore barbares. Elles ne s'assoient presque jamais. Elles s'agenouillent ou s'accroupissent où elles se trouvent. Elles ne se mettent point à table et ne mangent point avec les hommes. Ceux-ci leur donnent quelques pièces de pain et de pitance par-dessus l'épaule sans se retourner. Elles reçoivent cette chétive portion en baisant la main et en faisant une profonde référence. Les habitants de ces tristes hameaux étaient si sauvages à mon arrivée qu'à la vue d'un étranger, fût-ce un paysan, ils se précipitaient dans leur chaumière comme des marmottes. Voilà ces gens-là que Félix Neff va évangéliser et il va connaître un réveil bouleversant. Je vais aussi vous lire ça parce que on va peut-être terminer par là. C'est, il n'y avait plus de pasteurs dans cette région des Hautes-Alpes parce que personne ne voulait y aller. C'est bien que les premières années, la première volée de catéchumènes, Félix Neff a eu 100 catéchumènes qui avaient entre 18 et 45 ans parce qu'ils n'avaient jamais eu de pasteurs, hein. Et le jour des rameaux, le jour de la confirmation, c'est le jour où le réveil éclate. À 10 heures, je me rendis au nouveau temple où toute la vallée était réunie. Les catéchumènes, au nombre de 100, occupaient tous les bancs vis-à-vis de la chaire. Je leur adressais un discours sur 1 Pierre 2:2, comme des enfants nouveau-nés, etc. Le Seigneur m'assista puissamment. Et quoique je n'eusse guère pu me préparer, je laissais, je crois, peu de choses à leur dire. L'assemblée fondait en larmes. Beaucoup de jeunes gens, surtout des filles, étaient à genoux, au pied de leur banc. Quand il fallut réciter le vœu du baptême, je n'en trouvais aucun qui pût aller jusqu'au bout. Les sanglots étouffaient leur voix. Je fus obligé de le réciter pour eux. Puis, élevant les mains pendant que tous étaient prosternés, j'invoquais sur eux la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après le service, la plupart restèrent à genoux, sans paraître s'apercevoir qu'il était fini. D'autres allèrent se réunir en petites troupes pour pleurer et prier ensemble. À 2 heures, je fis le service de la Passion, selon le rite des frères Moraves, c'est-à-dire en lisant l'histoire de la Passion dans l'harmonie des 4 évangiles et en entremêlant cette lecture de chants analogues également pris dans le recueil des frères. L'émotion fut plus grande encore que le matin. Peu de personnes pouvaient chanter. 2 de nos chants, surtout, ne firent que verser des larmes. Monsieur Baridon, fils, me dit en sortant, « Que ce service est touchant. Quel beau discours pourrait le remplacer ?» Et puis, un peu plus loin, pendant ces 8 jours, c'est la semaine donc de Pâques, pendant ces 8 jours, je n'ai pas eu en tout 30 heures de repos. On ne connaissait plus ni jour ni nuit. Avant, après et entre les services publics, on voyait tous les jeunes gens réunis en divers groupes auprès des blocs de granit dont le pays est couvert, s'édifiant les uns les autres. Ici, on lisait le miel découlant du rocher, c'est la brochure pour laquelle Vignex s'était converti. Là, le voyage du chrétien. Plus loin, Suzette Baridon, entourée de jeunes filles, leur parlait de l'amour du Sauveur, tandis que le sévère François Berthelon représentait aux jeunes gens toute l'horreur du péché et la nécessité de la repentance. Dans ces petites réunions, les larmes coulaient comme au temple. Et l'on y observait le même recueillement. Quelques années après, un de ces catéchumènes disait, « Félix Neff n'a pas illuminé nos vallées, il les a incendiées. » Et en effet, l'écrivain vaudois, Benjamin Valoton, hein, qui était le père d'Annie Valoton, qui a illustré la Bible, hein, Benjamin Valoton, qui était de descendance des Hautes-Alpes par sa mère, il va dans les Hautes-Alpes et puis il est un peu en avance. et puis il entend la cloche du temple qui sonne, et puis à sa surprise, il voit un vieillard, qui sonne la cloche, mais avec ardeur, puis il dit, ah ben alors là vous savez sonner les cloches vous. Et puis ce vieillard le regarde, mais Valentin était tout jeune encore. Mais jeune homme, j'ai été catéchumène de Félix Neff. C'est mon cœur que je fais sonner là-haut. Et puis, il ajoutait encore, Félix Neff, on ne savait jamais quand il venait. Il n'a jamais dormi plus de 5 nuits dans le même lit. Il allait d'un village à l'autre, par n'importe quel temps en hiver, à des 2000 mètres d'altitude, passant les cols, etc. Et il dit, on savait jamais à quelle heure il venait. Parfois, on était à Dormillouze, il y avait 2 mètres de neige, à 9 heures du soir, il arrivait, il frappait aux portes, il disait, au temple, au temple! Et on se levait, et on allait au temple. Et Benjamin Valotton dit, au temple? Quand il y a 2 mètres de neige dans les rues? Mais vous deviez avoir terriblement froid. Et cet homme dit, jeune homme, quand Félix Neff prêchait, on n'avait pas froid. Et ainsi, pendant 2 ans, il va évangéliser les Hautes-Alpes. Encore une fois, ces gens les plus pauvres, les plus miséreux, qui vont devenir des évangélistes. Et il va tour à tour être évangéliste, maçon, agronome, parce qu'il va leur apprendre à planter les pommes de terre, parce qu'il pensait que plus on plantait les pommes de terre serrées les unes contre les autres, plus on avait de pommes de terre à la récolte. Alors il va leur apprendre à cultiver, il va leur apprendre quantité de choses. Et il va s'épuiser tellement qu'au bout de 4 ans, il va être malade, et il va revenir malade des bronches, et il va revenir à Genève, où il va passer les derniers mois de sa vie, à 32 ans, mort d'épuisement. Et on raconte souvent cet épisode. Il a eu sur son lit de maladie, il fait venir ses amis du réveil, et puis il leur dit, je n'ai pas la joie. Alors Émile Gers, un des pasteurs du réveil, dit, on n'est pas sauvé par le sentiment de joie. Mais je n'ai pas la paix. Et Émile Gers lui répond, mais on n'est pas sauvé par le sentiment de la paix. Et Félix Neff répond, c'est vrai, on est sauvé par la foi. C'est la seule chose qui me reste. Il dit, j'ai tout gratté jusqu'au mur, mais le mur est solide, la foi est là. Et puis il écrira à ses amis, des Hautes-Alpes, pour leur dire adieu. Et vous avez d'ailleurs un fac-similé de sa dernière lettre, où c'est les dernières paroles, les dernières lettres qu'on a de Félix Neff, où il dit adieu André Blanc, adieu Untel, adieu, au revoir, je monte vers mon père en pleine paix, parce qu'il l'avait trouvé la paix, victoire, victoire par Jésus-Christ. Ça, c'est Félix Neff qui a été cet évangéliste qui a été la figure la plus touchante du réveil, et qui a su évangéliser les plus pauvres parmi les pauvres. Et alors qu'à Paris, ça a été la haute société protestante, ça peut être notre prière aussi, de pouvoir toucher, aussi bien les pauvres que les riches. Et puis bien sûr ceux qui sont entre deux. Mais voilà quelques pensées sur le réveil de Genève. On aurait pu parler encore de bien d'autres choses, mais je croyais que ces 5 caractéristiques de ce réveil, et dans un sens de tout réveil, me semblent importantes. Je vous propose de prier. Seigneur, béni sois-tu. Parce que c'est vrai, si on considère l'histoire de l'Église, il y a des choses tristes, il y a des choses qui nous font honte, mais il y a des choses glorieuses, il y a des choses belles. Et nous te prions pour ces hommes et pour ces femmes qui, pour toi, ont tout donné. Et nous te prions pour nos églises aujourd'hui, pour notre église ici à Meyrin, pour nos églises ici à Genève. Que le réveil de Genève, Seigneur, soit pas simplement un souvenir du 19e siècle, mais visite encore ton église aujourd'hui, Seigneur. Et pour cela, visite-nous, Seigneur. Fais de nous aussi des témoins de ton évangile. En ton nom. Amen.
Peut-être encore un temps de questions, de remarques, si vous avez envie de poser une question. Alexandre.
Tu m'as évoqué l'histoire de la statue de Jérémie qui est sur la place
oui.
de Saint-Pierre. Je ne sais pas si tu connais l'histoire.
Non.
Je l'ai apprise de Tom Bloomer.
Ah oui.
Il faut encore un anglais qui nous fait découvrir la Rome, qui nous a raconté que l'auteur de ce statue, il était tellement effrayé par la dégénérescence ou par la perversité, disons, de ce qui est devenu la réforme à Genève, bon, qu'il a fait une statue de Jérémie qui tourne le dos au temple de Saint-Pierre. Mm-hmm. Alors j'invite tout le monde à visiter ce statue qui est caché un petit peu.
Oui, c'est ça, oui, elle est dans l'angle. Oui. Mmh. Oui. Qui le présentait comme un père fouettard? Il le présentait surtout comme le sauveur. Mais justement, il dit, c'est la prédication d'Adolphe Monod, c'est intéressant parce que on considère parfois Adolphe Monod comme quelqu'un qui a un peu atténué sa théologie évangélique. Or, c'est une des dernières prédications. Le titre de sa prédication, c'était donc à Paris, hein, « Trop tard, ou Dieu fidèle dans ses menaces hein. ». Il dit « Dieu fait grâce, mais Dieu est aussi le Dieu de justice hein. ». Je dirais l'Apocalypse, hein, c'est prendre au sérieux à la fois la grâce de Dieu et... sans ces avertissements, c'est ça qu'il veut dire. Il dit, mais si vous n'êtes pas converti, ne vous peignez pas d'illusions, hein, je ne vous caresse pas dans le sens du poil, si vous n'êtes pas converti, c'est la mort éternelle. Mais Dieu peut vous changer. C'est au contraire une prédication de grâce, et d'encouragement. Si je vais en prendre un. Dans une autre de ses prédications intitulée « Êtes-vous un meurtrier ?» sur le sixième commandement « Tu ne tueras pas » où il taraude les gens en montrant que être un meurtrier c'est pas seulement tirer un coup de fusil hein, c'est ne pas donner le salaire juste à un ouvrier etc., etc., et puis il dit, s'il y a ici, c'est comme ça qu'il termine, hein, s'il y a ici quelqu'un qui me ressemble, s'il y a ici quelqu'un qui se reconnaisse, fût-ce pour la première fois de sa vie, mauvais, condamné, perdu, maudit de Dieu, qu'il se réjouisse. C'est pour lui proprement qu'est sortie du ciel cette voix qui sort encore de toutes les pages de la Bible, grâce, grâce. Grâce, mais pour le criminel. Salut, mais pour celui qui est perdu. Vie éternelle, royaume de Jésus-Christ, mais pour celui qui est sur le chemin de la mort éternelle et dans le royaume de Satan. Grâce, grâce. Non pas une grâce à mériter, mais une grâce toute gratuite. Non pas une grâce à venir, mais une grâce préparée avant la fondation du monde. Non pas une grâce qui soit une œuvre, mais une grâce qui est une grâce. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Voilà, il parle bien de condamnation, mais il dit surtout grâce. C'était ça, sa prédication.
On disait dans l'élaboration des églises, dans la structure, le fait qu'on soit sous gouvernement français du département de Léman, je sais pas exactement, que la PAC a joué un rôle, concernant, je dirais, l'établissement de l'église libre.
Mais l'Église libre est postérieure à l'occupation française. Je dirais Le réveil, donc le réveil a commencé en 1817, où les Français étaient déjà partis. Hein. C'était déjà le canton de Genève. Alors c'est vrai que, on pourrait en parler, c'est toute une discussion, le canton de Genève n'était plus la République de Genève entièrement protestante, hein. C'était un canton qui était mixte avec les communes réunies, ce qui a posé un certain nombre de problèmes. C'était l'époque du curé Vuarin et de toute cette polémique qu'il y a eu. Mais la fondation de l'Église libre, c'est simplement parce que les hommes du réveil ont été chassés. Aucun ne voulait, surtout pas César Malan, mais même les autres. D'ailleurs, je pourrais dire, César Malan, avant sa mort, quand il est devenu très vieux, avant sa mort, il a fait démolir sa chapelle, parce qu'il ne voulait pas créer une église séparée. Mais, je dirais, aucun ne voulait vraiment être séparatiste. C'est venu parce que, pour dire les choses clairement, il les a foutus dehors.
Ben, tu peux rappeler pourquoi, je n'ai pas bien compris, pourquoi ils se sont séparés, l'église du témoignage, de la chapelle du témoignage et de l'église
du témoignage. Oui, parce que donc, César Malan ne voulait pas se séparer de l'église officielle. Et toute sa, il n'a plus jamais, jusqu'à sa mort, il n'a jamais reprêché dans un temple genevois. Il est resté en dehors de l'église, mais il n'a jamais voulu créer une église indépendante ou libre. C'était une chapelle provisoire, hein, puisque lui, il était interdit de prédication. Hein, et les gens venaient, ils étaient très nombreux d'ailleurs. Alors qu'au Bourg-de-Four, on a créé une église indépendante. Et puis là-dessus, le Bourg-de-Four est devenu ensuite la Pélisserie. Oui. Là-dessus est venue une différence un peu dogmatique. César Malan était très très calviniste, les autres étaient un peu plus arminiens.
Donc, toutes nos assemblées, de frères à l'époque, on est issus, on n'est pas des désirs qui existent toujours, quoi. C'était juste dans une même période.
Ah ben, je dirais, c'est un épisode que j'ai complètement laissé de côté parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais là-dessus est venu, au début de l'Église libre de la Pélisserie, est venu Darby, qui a pris avec lui un certain nombre de gens et ça a donné les frères. Mais l'origine, c'est quand même le réveil. Darby est venu après.
Une dernière question peut-être ? Elle vous brûle la langue.
J'ai une impression, je ne sais pas vous, qu'est-ce qui reste en France maintenant de tous ces réveils dynamiques ? On a l'impression, quand on visite la France, c'est toutes des cathédrales, des églises dans chaque village, dans une immense église catholique.
Ah ben, je dirais, même à cette époque, alors je m'excuse si j'ai donné une fausse impression, à Paris, pour toute la ville de Paris, hein, le Jean Monod, le père d'Adolphe et de Frédéric Monod, était le seul pasteur pour tout Paris. Et ensuite, il y a eu deux ou trois autres églises qui sont venues. Mais le protestantisme a toujours été ultra minoritaire en France, même à l'époque du réveil. Hein. Et les grandes églises ont toujours été des églises catholiques, j'entends. Déjà, mais à la grande période du réveil, si vous alliez dans les campagnes françaises, à part peut-être les Cévennes ou l'Ardèche, c'était quand même une grande époque. L'immensité de la population est catholique, elle a toujours été. Donc ce qu'on peut dire en France, ben, c'est qu'il y a toujours une église. Hein.
Et, mais... Peut-être qu'ils sont allés là-bas, et ça va devenir ça.
Si, bien sûr, des églises ont été fondées, bien sûr. Il y a des choses très belles. Si vous lisez le livre, c'est deux tomes d'ailleurs, de Samuel Morse, Un siècle d'évangélisation en France, vous verrez des églises qui ont été fondées. Mais c'était aussi pas facile. Si vous lisez les rapports de la Société évangélique de Genève, comme qui envoyait des colporteurs, hein, qui se faisaient lyncher, qui se faisaient lapider, c'était pas facile, hein, parce que les curés, ils étaient pas tendres. Hein, ça a permis au protestantisme, ce qui était un protestantisme au début du XIXe siècle, qui était au fond la fin des persécutions. Le protestantisme était concentré dans les Cévennes, dans le sud de la Drôme, en Ardèche, et puis un peu dans le Poitou. C'est tout. Dans les autres, un peu aussi de quelques restes en Normandie. Mais les gens du réveil ont réussi à créer des églises un peu dans toute la France. Mais c'est resté très très minoritaire. Hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Tout ce qui est dans les frères, soit les frères, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'ils sont issus de ce réveil?
Oui, bien sûr.
Beaucoup des
gens. Oui, bien sûr. Alors, les...
Beaucoup, je ne sais pas. À Lyon, il y a bien une quarantaine d'églises évangéliques. Oui. Par exemple, il y a un peu moins d'Armandie.
Oui, alors, mais ça reste, le protestantisme français reste minoritaire, hein. Même si à Paris, c'est Sébastien Fat qui dit, il y a 400 églises ethniques. C'est-à-dire, coréennes, chinoises, guadeloupéennes, etc. Tout évangélique, hein. Ben, bien sûr. Oui.
Voilà, merci encore Philippe pour ce que nous a partagé ce soir. N'hésitez pas à prendre encore un temps hein, pour regarder les panneaux. Paul Robert me signale qu'il y a toujours en vente les brochures de cette exposition du Réveil, 5 francs. Vous retrouvez tous les panneaux qui sont là décrits, très bien faits. Je rappelle aussi que ces conférences sont enregistrées sur cassette, mais aussi sous format fichier informatique donc, sur le site. Encore réécouter si jamais. Mmh. Et puis on retrouve Philippe mercredi prochain pour la dernière conférence sur le réveil du Pays de Galles.
Le réveil du Pays de Galles, ça c'est, j'allais dire, la chose la plus extraordinaire qui soit.
Ah ben, il vous faut être là mercredi prochain. Bonne rentrée à chacun.